Caractère.
Authentique.
Diversité. Partage.
Sincère.
Qualité.
Solide.
Et convivial.
Bonjour à tous, je suis Marine, guide à l'Office de tourisme de Toulouse et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Toulouse dans vos oreilles.
Pour une personne, vous comptez combien ?
Aujourd'hui, nous allons suivre les produits d'Occitanie du marché à l'assiette. Au cœur du Sud-Ouest, Toulouse fait figure de point de convergence entre de nombreux produits et spécialités venant des quatre coins de la région. Fruits du Tarn-et-Garonne, volailles et canards gras du Gers, fromage des Pyrénées, pour n'en citer que quelques-uns. L'Occitanie est la deuxième région agricole de France et la première pour la production biologique. Elle possède de nombreuses appellations garantissant la qualité des produits.
Le morceau que vous avez coupé tout à l'heure.
Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de professionnels passionnés par leur métier, amoureux de leur terroir, dans des lieux incontournables quand on parle bonne chère dans la ville rose. Mais point de violette ou de cassoulet pour cette fois. Nous allons débuter notre découverte dans un véritable temple dédié aux bons produits. Il s'agit du MIN, traduisez le marché d'intérêt national. Cette institution est l'équivalent du Rungis parisien. Imaginez, 218 000 tonnes de produits commercialisés, 271 producteurs et 5 000 acheteurs. Pour découvrir cette véritable ville dans la ville, nous allons suivre Madame Ferrage, qui va nous livrer les secrets de ce lieu. Bonjour Madame Ferrage.
Bonjour.
Donc merci de nous accueillir ici aux Mines de Toulouse, qui est une sacrée institution.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Donc je suis Martine Ferrage, je suis la directrice générale des Jardins de Garona, qui est un grossiste basé sur le Mines de Toulouse. Notre entreprise existe depuis 1993, je suis associée avec mon frère. Et notre spécialité est la distribution de fruits et légumes aux professionnels de la restauration.
Et comment êtes-vous arrivée à ce métier dans les fruits et légumes ? Est-ce que c'est une histoire de famille, une histoire de passion ?
Alors, famille, oui, puisque on peut dire à la base, c'est mon frère, qui est mon associé encore à l'état actuel des choses, qui avait créé un commerce de détail avec ma mère, donc en 1993. Et ensuite, nous avons petit à petit développé une activité de livraison aux professionnels de la restauration et nous faisions en binôme les fruits et légumes au détail et les fruits et légumes en gros pour les professionnels de la restauration. Il se trouve que nous avons eu l'opportunité de pouvoir nous implanter sur le MIN et nous avons cédé nos activités de détail pour nous consacrer exclusivement à l'activité de gros et de livraison professionnelle à la restauration. Il se trouve que ma maman est partie à la retraite et tout naturellement, je suis venue prendre le relais avec mon frère.
Donc une belle histoire de famille.
Exactement.
Comment choisissez-vous les producteurs avec qui vous travaillez pour fournir les restaurateurs et autres professionnels qui viennent chez vous ?
Alors, étant donné que l'entreprise donc existe depuis quasiment 30 ans, nous avons développé depuis des années sur l'exploitation des commerces, puisque nous avions deux commerces, un partenariat avec des producteurs locaux. Il faut savoir que quand même, nous avons la chance d'être dans un bassin de production locale très intéressant. Je parle en termes de, on va dire, de géolocalisation, c'est-à-dire nous avons quand même tout ce qui est Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, où c'est quand même un bassin de production fruits et légumes très important. Donc nous avons la chance d'avoir un carreau de producteurs sur le MIN. Alors un carreau de producteurs, donc ce sont des producteurs locaux et région, on va dire, toulousaine et agglomération, qui viennent vendre leur propre production sur le MIN de Toulouse. Et nous, nous avons donc cette chance d'avoir ce partenariat avec ces producteurs qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on sensibilise donc nos restaurateurs sur la production locale et donc la livraison des produits au zéro kilomètre.
Et donc, vous nous parlez de ce lieu, le MIN, qui est assez extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que le MIN, s'il vous plaît ?
Donc, le MIN de Toulouse, c'est, donc, comme son nom l'indique, c'est un marché d'intérêt national qui est basé donc, sur Toulouse, secteur de la Lande. Voilà, c'est un regroupement de plusieurs entreprises. Donc, on va dire l'essence même, c'est surtout les fruits et légumes, avec une grande halle de fruits et légumes qui doit regrouper environ une trentaine de grossistes en fruits et et légumes, tout confondu, secteur bio, conventionnel, fruits et légumes. Et ensuite, tout autour, donc, des grossistes en marais, en viande, en fromage, fleurs, gastronomie et bien d'autres produits. Et aussi une pépinière d'entreprise, donc, là où nous sommes actuellement, qui regroupe une petite cinquantaine de petites entreprises qui développent des produits. Ça va de la maison Mium qui fait donc des produits à base de spiruline. On peut parler du poivre de pompote, du thé t'imagines et de bien d'autres produits.
Un lieu très riche pour la gastronomie toulousaine.
Exactement. On peut parler du ventre de Toulouse, comme on parle de Rungis en disant que c'est le ventre de Paris. Bien, le mine de Toulouse est devenu le ventre de Toulouse.
Et y a-t-il un lien entre Rungis et le mine de Toulouse ?
Oui, alors le mine de Toulouse donc, a été repris par la Semaris depuis 2017, qui est l'exploitant du mine de Rungis. Donc Toulouse et Rungis maintenant sont liés par un contrat d'exploitation. Et sa direction a été prise par Madame Maguelone Pontier, qui est une personne donc, qui a fait beaucoup évoluer depuis 2017 ce mine. Et aujourd'hui, le mine de Toulouse est, on va dire, une place incontournable de la ville de Toulouse et son rayonnement va au-delà de l'Occitanie et même, j'ai envie de dire, on peut dire sur le plan même international.
Est-ce que c'est un lieu qui est ouvert au public ?
Alors, le mine peut se visiter. Des visites accompagnées sont faites par un prestataire. Donc, le mine peut être visité, mais il est réservé exclusivement aux professionnels. Donc, quel que soit le corps de métier, ça peut être un professionnel de la restauration, ça peut être un professionnel aussi de commerce de détail qui peut venir acheter sur le mine, mais en aucun cas, un particulier ne peut venir acheter sur le mine. C'est réservé aux professionnels.
Et les particuliers ont-ils accès peut-être à des restaurants ou à des infrastructures pour déguster les produits qui y sont acheminés vers le mine ?
Absolument. Vous avez 3-4 restaurants qui sont ouverts sur le mine à l'année et vous avez une petite guinguette qui est ouverte donc à partir de la mi-mai jusqu'à environ fin septembre, début octobre, qui s'appelle Minou et qui est implantée à l'entrée du mine, là où nous avons un parc arboré. Nous avons la chance d'avoir sur le mine un parc qui est classé. Et donc en fait, ce parc accueille la guinguette donc pendant la saison estivale. Et les particuliers peuvent bien sûr venir. Et il faut savoir que les barrières pendant ces créneaux-là, à savoir le midi entre 11h30 et 14h et le soir à partir de 17h30, les barrières sont ouvertes. Et donc là, effectivement, le mine est libre d'accès aux particuliers, mais uniquement pour aller se restaurer.
À partir de quelle heure le mine prend vie le matin pour les professionnels ?
Alors, les acheteurs peuvent venir acheter à partir de 4h30 du matin, mais il faut savoir que les grossistes, eux, sont ouverts aux alentours de 3h du matin pour bien sûr réceptionner les marchandises qui sont arrivées dans la nuit, puisque le mine vit la nuit aussi, hein, y a quand même les arrivages qui se font la nuit, et donc l'implantation bien sûr des cases des grossistes pour que les acheteurs puissent venir acheter à partir de 4h30 sur la grande halle et à partir de 6h du matin pour les producteurs.
Donc il faut être matinal.
Bien sûr, on vit la nuit, mais c'est un métier qui est prenant, plaisant. Et de toute façon, on va dire, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Poursuivons notre promenade au cœur de Toulouse cette fois-ci, puisque c'est au marché des Carmes, institution pour de nombreux Toulousains, que nous avons rendez-vous pour rencontrer Madame Cadenet. Ce nom vous dit peut-être quelque chose.
Bonjour. Bonjour, il faudrait un cadenet tranché, s'il vous plaît.
Ouais. Un entier ?
Non, ce morceau-là, s'il vous plaît.
Celui-là ?
Vous avez certainement déjà aperçu sa boulangerie lors d'une sortie dans les marchés couverts de la ville. Bonjour, Madame Cadenet.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Donc, je suis Madame Cadenet. Nous sommes installés depuis 1976. Nous sommes la première génération de boulangers et je dirais que c'est en épousant mon mari que j'ai épousé la profession, voilà en gros. Ensuite, à partir de là, donc, c'est mon mari qui a créé une spécialité qu'on appelle donc, le cadenet, notre nom, qui est typique, un pain typique à nous, vendu au poids et qui depuis fait partie vraiment de notre grande production.
Qu'est-ce qu'il fait que ce pain est votre spécialité connue et célèbre pour votre boulangerie ?
Alors, je pense que c'est un pain qui a un peu une forme atypique, puisque c'est un pain qui est vendu sous forme de grosses miches d'un kilo ou un kilo et demi. qui, en même temps, ben, le client a le choix de prendre le morceau qu'il veut. Il est vendu à la coupe. S'il veut un quart, il prend un quart. S'il veut deux tranches, il prend deux tranches. Et en plus, c'est un pain qui conserve 3-4 jours sans problème.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une commande un peu particulière pour, je ne sais pas, un mariage ou un événement, une petite folie à réaliser ?
Alors, je dirais, bon, commande particulière comme ça, ben, peut-être pas, mais c'est souvent qu'on a du pain qui est acheté pour partir à l'étranger, voire à la Chine, un petit peu partout. Quoi. Les gens qui arrivent, qui le goûtent, ils le prennent et ils partent avec dans leur valise et ils nous renvoient les photos.
Et votre pain voyage à travers le monde entier, voilà. Mais c'est magique. Et avez-vous une autre spécialité, peut-être, en plus de ce pain, une pâtisserie ou des petites douceurs ?
Alors après, je dirais qu'on travaille en association avec un spécialiste du Gers, le pastis gascon.
Alors, qu'est-ce que c'est que le pastis gascon ? Dites-nous-en un peu plus.
Alors, le pastis gascon, c'est comme une pâte feuilletée étirée, mais très, 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 très fin, avec des pommes macérées à l'armagnac à l'intérieur. Et tout est fait à la main, parce que dessus, c'est des petits bouts de pâte qui sont découpés et déposés en rosace.
Donc, une belle spécialité de notre région.
Une belle spécialité de la région, voilà. Et c'est pour ça qu'on préfère travailler en échange avec des professionnels.
Donc nous parlons de pain, de biscuits, de gâteaux, mais où êtes-vous installé ? Donc à Toulouse, mais dans une boutique, sur les marchés ?
Alors on a commencé donc à Castelmoreau, puis après bon, on a vendu Castelmoreau et maintenant on est installé à Garidèche, où c'est qu'il y a un gros labo de production avec un magasin. Et après donc nous avons les deux marchés, Victor Hugo et les Carmes. Les Carmes ça doit faire 25 ans et Victor Hugo ça doit faire 20 ans.
Vous pourriez peut-être nous parler un petit peu de ces deux marchés emblématiques pour les Toulousains ?
Ben oui, ben je dirais que ces deux marchés, moi je dirais complémentaires. Le marché des Carmes est un marché peut-être convivial, famille. Le marché Victor Hugo, c'est un marché peut-être plus, je dirais festif, où les gens viennent de l'extérieur.
Est-ce que vous pourriez nous dire, sur ces deux marchés, est-ce que vous connaîtriez à peu près le nombre de loges ?
Alors à Victor Hugo, je pense qu'il y en a 80, et au Carmes, on doit être 42.
Quels sont les jours d'ouverture et les horaires ?
Alors les jours d'ouverture, c'est du mardi au dimanche, et en gros, c'est 7h-13h30.
Donc en tant que présidente de l'association des commerçants du marché des Carmes, vous devez en connaître un petit peu plus sur les coulisses du marché. Est-ce que vous pourriez nous parler de projets qui sont en train de se mettre en place ?
En tant que présidente, bon, ben, j'organise des nocturnes. Il y a les nocturnes donc grand public. Et à partir de maintenant aussi, il va y avoir des nocturnes privées. C'est-à-dire, bon, là, il y en a déjà une. Et il y en a deux ou trois qui sont prévues pour la fin de l'année. Donc on peut accueillir en nocturne privée entre 200 et 800 personnes.
C'est-à-dire qu'une entreprise, un particulier, peut pour un événement, un mariage, un séminaire, privatiser le marché des Carmes.
Privatiser le marché des Carmes dans la soirée.
Et donc les loges sont ouvertes aussi, comment ça se passe hein ?
Voilà, en fonction, les loges sont ouvertes et proposent des produits en fonction de la demande du client.
Merci beaucoup Madame Cadenet.
Et merci beaucoup à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Et pour finir, c'est à la table d'un restaurant que nous allons poser notre micro pour rencontrer le chef toulousain Simon Carlier. Passionné de cuisine et très inspiré, il adore travailler les bons produits de notre région. À la tête de Solide, son établissement au cœur de la ville, le chef va évoquer pour nous son parcours original, son travail et ses nombreux projets.
Bonjour Monsieur Carlier.
Bonjour.
Donc merci de nous accueillir ici dans votre restaurant Solide qui se trouve donc au cœur du quartier des Carmes à Toulouse. Est-ce que en quelques mots vous pourriez vous présenter ?
Ben, Simon Carlier, donc je suis le chef du restaurant Solide, donc qui se situe au Carmes effectivement.
Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre restaurant, sur vous ? Est-ce que vous êtes chef depuis toujours ? Est-ce que vous aviez déjà une passion pour la cuisine ? Est-ce que c'est dans la famille que ça s'est transmis ?
Alors oui, c'est une histoire familiale puisque moi, à la base, j'étais ingénieur. Mais je suis né quelque part dans un restaurant. Mes parents avaient une ferme auberge à une heure d'ici, à Alette-les-Bains, sur un domaine d'une centaine d'hectares où il y avait des moutons et où on recevait des gens à manger. Donc il y avait un restaurant et des chambres d'hôtes.
Oui, donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Voilà, donc après j'ai organisé des événements culinaires durant mes études d'ingénieur. J'ai travaillé ensuite pendant 4 ans comme ingénieur à Paris. Puis quand je suis retourné dans le sud de la France, à Toulouse, je me suis dit qu'il était temps de changer de métier et peut-être vivre de sa passion.
Et quel a été votre parcours pour passer d'ingénieur à chef d'un restaurant ici à Toulouse?
Alors moi, j'ai pas refait d'études en cuisine, puisque effectivement, vu ma famille, j'ai toujours baigné dedans, donc je maîtrisais quand même pas mal les bases. J'ai participé à l'émission Masterchef en 2012. Et ensuite, après, j'ai fait juste quelques micro-stages chez Franck Renimel ou Stéphane Castin, et puis avec à l'école Le Nôtre pour prendre un petit peu le coup de main. Et donc, j'ouvre mon micro-restaurant à Toulouse en 2012, un restaurant de 15 places où je suis seul en cuisine avec ma sœur.
Vous citiez des noms de chefs. Est-ce que vous avez, parmi ce monde de la cuisine, un modèle, un mentor, quelqu'un qui vous inspire?
J'étais très inspiré par, mais toujours, hein, par Yves Candebord, hein, qui est le chef qu'on connaît bien, hein, dont le terme bistronomie était inventé pour lui. Alors, c'est un terme que lui-même n'aime pas trop, parce que je crois qu'il fait une cuisine qui est accessible, mais c'est vrai que finalement, c'est aussi un très grand technicien, donc c'est toujours un plaisir de le côtoyer.
Et en ce qui concerne votre restaurant, comment se décide votre carte? Est-ce que c'est la saisonnalité, les produits?
Ah oui, c'est d'abord la saisonnalité, c'est ce qu'on peut voir. On a la chance d'être à côté du marché, donc tous les jours on voit les produits. On a des fournisseurs, des producteurs avec qui on travaille vraiment en bonne intelligence, qui nous proposent des choses, qui nous disent quand est-ce que la saison de quelque chose commence. Nous, il y a des produits, on les harcèle un petit peu pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Par exemple, je pense aux asperges, aux morilles, aux cèpes. Donc, ou des choses qu'on a pu voir, des petites aspirations. En se baladant, en voyageant, en regardant, même parfois en regardant la télé, on voit quelque chose qui nous inspire, un reportage sur un pays, on se dit « Ah, ça c'est marrant, comment ils font ?» Ben, je vais un petit peu regarder, ça peut être des méthodes de cuisson qui peuvent changer. Enfin, tout ce genre de choses pour arriver, effectivement, ben, au bout d'un moment, ben, quand à des envies de plat, et tout ça se mélange, et on sait un peu magique.
Et justement, en parlant de plats, est-ce que vous avez un plat signature qui revient régulièrement à votre carte ou un ingrédient vraiment qui, pour vous, est indispensable?
Moi, j'aime beaucoup travailler le pigeon, c'est vrai, et le gibier en particulier. Et après, toute notre première séquence est tournée autour de la mer, mais et pourtant je pense que je tiens beaucoup à ce que le légume soit vraiment un peu central dans chaque assiette pour que chaque plat soit... soit digeste. Et donc, c'est pas forcément la viande qui est toujours
l'élément central de votre plat.
Voilà. Mais bon, si je dois vraiment donner un élément, ce serait peut-être, oui, effectivement, le gibier et le pigeon. Puisque dans tous ces plats et dans ce que je fais beaucoup, c'est vraiment, on expose un peu le produit, on le travaille toujours en entier et on revient à quelque chose. Par exemple, le pigeon, on rôtit les suprêmes sur le coffre, on récupère le gésier, on farcit la cuisse avec le gésier et les abats, on en fait une petite croquette et on utilise l'aiguillette quasiment à cru. Donc voilà, on a tous les éléments du pigeon, on ne jette rien puisqu'avec les os on fait un jus de pigeon. Et on travaille chaque partie de manière un petit peu spécifique pour après le retrouver, chaque chose à sa juste cuisson, à son juste goût dans l'assiette.
Vous nous parliez des produits, on a la chance d'être dans une région qui est particulièrement riche. Est-ce que vous essayez de vous fournir au maximum sur Toulouse et ses environs?
Oui, alors moi j'aime bien définir un axe qui serait un peu l'axe du canal du Midi. Puisqu'on a je pense que c'est un petit peu historique aussi, hein, ce canal servait effectivement à pouvoir acheminer les denrées des beaux terroirs qui entourent Toulouse, mais qui vont vraiment de la mer Méditerranée à l'océan. Donc on se fournit sur les criers de Port-la-Nouvelle et de Saint-Jean-de-Luz. Et après, bien sûr, voilà, nos produits viennent vraiment très 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 grande majorité des départements aux alentours. Hein. Je pense à l'Ariège, je pense à l'Aude, les Corbières, on a l'Aveyron, le Tarn, on a des magnifiques produits. Et bien sûr, tout ça, je pense qu'une cuisine doit s'implanter dans un terroir.
Et c'est de la confiance, c'est des relations que vous avez tissées depuis des années avec ces personnes.
Voilà, donc là on a une productrice, Julie, qui est au marché du Salin, qui nous produit des tomates par exemple. Là elle m'appelle hier, elle me dit mais il me reste ça à la fin du marché. J'ai parfaitement confiance, donc je dis mais je suis pas au restaurant aujourd'hui. Mais elle me dit mais c'est pas grave, je te les dépose. Donc il y a cette relation de confiance qui est super chouette. Et quand j'arrive, j'ai mes superbes tomates là, qui sont là. Donc c'est ça qui est chouette d'avoir ces relations avec les gens qui sont autour, parce que en leur faisant confiance, on apprend des choses, on découvre des produits et on a vraiment une super qualité.
Outre votre restaurant, vous avez aussi participé à de nombreux projets sur la ville de Toulouse. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-uns?
Oui, alors c'est vrai que je suis un garçon qui n'aime pas trop s'ennuyer. Bon, ben pendant le Covid, avec Alexandre Fox et Sylvain Barfetti, nous avons monté une association qui s'appelle Belle Gamelle, qui est installée aujourd'hui aux mines, puisque son activité continue. Et donc, on a un laboratoire. On essaie de récupérer au maximum les produits, les invendus du mine pour limiter le gaspillage. On prépare des repas on essaie de faire venir un chef de Toulouse de manière régulière, hein, ben aussi pour que les bénévoles puissent cuisiner une matinée avec un chef. Puis on a beaucoup de bénévoles qui viennent chaque jour. Et on prépare ces repas pour des publics un peu dans la précarité alimentaire. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est ainsi que s'achève notre balade. C'était Toulouse dans vos oreilles, à la découverte de ces lieux qui contribuent au rayonnement de la gastronomie toulousaine. Nous remercions nos intervenants et vous invitons à contacter l'Office de tourisme si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à la série Toulouse dans vos oreilles. Merci pour votre écoute et à très bientôt.